Les vraies voix Sud Radio. Philippe David.
Eh oui, Philippe David est là, les vraies voix continuent, bien sûr. On va parler environnement, notamment. On va aller à Rouen, où on peut écouter Sud Radio. Absolument. Sur le DAB+, depuis hier.
La DAB+, alors on va le dire aussi RNT, parce qu'en français, c'est Radio Numérique Terrestre.
C'est vrai.
DAB+, c'est en anglais depuis hier. À Rouen et au Havre également.
Absolument. Chez le Premier ministre.
Édouard Philippe.
Absolument.
Oui. Au Havre. Et Rouen, où malheureusement les événements sont tragiques.
On va en parler.
On va en parler justement. Oui, mon cher Christophe, la préfecture de la Seine-Maritime a dévoilé hier soir la liste des 5253 tonnes de produits chimiques qui ont brûlé dans l'incendie de l'usine jeudi dernier. Alors j'ai fait le calcul, 5253 tonnes, ça fait un tout petit peu plus de 9 Airbus A380 avec les pleins de carburant, de passagers, de bagages et de fret. Parmi ces produits, des additifs multi-usages, mais aussi des améliorants de viscosité, de l'huile vierge, des additifs anti-usure, des solvants. Des rapports officiels évoquaient en 2016 la présence dans l'usine Lubrizol de produits, je cite, « très dangereux pour l'environnement, nocifs, susceptibles de nuire à la fertilité ou au fœtus, très toxiques pour les organismes aquatiques et pour d'autres toxiques, voire mortels en cas d'inhalation, tandis que d'autres peuvent présenter des effets graves pour les organes, être cancérogènes ou irritants pour les voies respiratoires. » Bref, on n'a pas fini de parler de l'incendie de l'usine Lubrizol, d'où la question du soir. Faut-il déménager les usines Seveso hors des villes? Et pour le moment, vous êtes 72% à dire oui sur Twitter. Vous voulez réagir? Vous pouvez bien évidemment nous appeler au 0826 300 300. Avec nous, Michel Dubromel, président de France Nature Environnement. Michel Dubromel, bonsoir.
Bonsoir Philippe, je te signale qu'à Nantes, il ne gèle pas actuellement, mais on a un beau temps, bien gris, comme à Nantes, mais beau temps.
Et à Nantes, je crois qu'on nous reçoit également, ou on va pas tarder à nous recevoir, en DAB+, ou RNT. Bernard Cron, chirurgien, vice-président de l'Internat de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris. Bernard Cron, bonsoir.
Bonsoir Philippe, tout va bien?
Tout va bien, bienvenue sur Sud Radio. Et Jean-Yves Lebert, membre de la commission d'orientation de la recherche et de l'expertise de l'Institut National de l'Environnement et des Risques, l'INERIS, bonsoir.
Bonsoir, merci de m'inviter.
Et bien avec plaisir, bienvenue sur Sud Radio. On préférait que ce soit pour des circonstances plus sympathiques. Tiens, on va commencer avec vous Jean-Yves Lebert. Lubrizol, le 26 septembre dernier, 18 ans et 5 jours après AZF, là c'était pas à Rouen mais à Toulouse, n'a-t-on pas retenu les leçons du passé?
On a continué à s'acculturer en matière de risques industriels, en réalité, avec la désindustrialisation de notre économie. La notion de risque industriel est quelque chose qui s'éloigne de plus en plus de la préoccupation de nos dirigeants, de nos élites et de la population, puisqu'on a de moins en moins d'usines, et on a des usines qui tournent plutôt bien en général. Et c'est une préoccupation qui revient seulement de temps en temps quand il y a un accident de ce type. Et un accident marquant où il y a en général des morts tout de suite et des disparitions, des dégâts matériels immédiats, constatés immédiatement. La caractéristique de Lubrizol, c'est que c'est un accident dont les conséquences des pollutions seront longues. On n'a pas de mort tout de suite, on aura des gens probablement un peu affectés sur le plan de leur santé, on a un environnement qui est détérioré du fait des retombées de substances, mais c'est un peu quelque chose d'un peu nouveau auquel on n'était pas tellement préparé psychologiquement, je dirais, et auquel ceux qui nous protègent, qui essaient de nous protéger des risques, n'ont pas encore été confrontés en France du moins.
Michel Dubromel, on n'a pas retenu les leçons d'AZF, c'est les hasards du calendrier, 18 ans et 5 jours, pratiquement 18 ans jour pour jour, après le drame à Toulouse qui avait fait des dizaines de morts, plus de 30 morts de mémoire.
Il y a vraiment un travail très important et je souligne ce qu'a dit mon interlocuteur précédent.
Jean-Yves Lebert.
Jean-Yves Lebert, monsieur. Il y a vraiment un gros travail au niveau des services de l'État pour vraiment acculturer, pour prendre connaissance du risque, parce que le risque industriel n'était pas connu en France. Par contre, il y a un gros problème de secret, d'une part, une entreprise qui n'a pas communiqué avec son voisinage. Donc une entreprise qui n'a pas communiqué avec son voisinage, eh bien, quand il arrive une liste de produits dangereux, il est normal que tout le voisinage s'inquiète. Donc là, il y a quand même une carence de l'entreprise qui n'a pas pris ses responsabilités. Une entreprise qui manipule des produits dangereux doit assumer ses responsabilités et les expliquer aux riverains. D'autre part, des entreprises qui ont des riverains qui habitent à côté, il doit exister, et c'est aussi une répercussion de l'accident de la ZF, heureusement, il n'y a pas eu de mort cette fois-ci, de mettre en place des plans de prévention des risques industriels, je m'excuse, PPRT, qui justement permettent d'informer la population à proximité, d'expliquer au niveau urbanisme qu'ils ne peuvent pas construire à côté et l'autre. Donc c'est quand même hallucinant que 20 ans après AZF, des personnes qui étaient à côté de l'entreprise, j'ai des citations, soient parties le matin en voiture sans aucune protection. Donc il y a une responsabilité et l'entreprise et les services de l'État qui n'a pas été assumée.
Bernard Cron, vous qui êtes chirurgien et vice-président de l'internat de la PHP, en général dans la médecine on aime bien retenir les leçons du passé, manifestement ça n'a pas été trop le cas, non ?
C'est tout à fait exact, ça n'a pas été retenu parce que ce problème qui est inscrit dans la Constitution par Jacques Chirac, le principe de précaution, n'est jamais réalisé. Il n'est pas réalisé pour différentes raisons. D'abord parce qu'il ne faut pas affoler la population. Donc on leur dit qu'il n'y a pas trop de risques, dans l'immédiat, il n'y a pas de risque aigu, etc. Je voudrais recadrer ça dans le problème général des principes de précaution. On peut reparler du scandale du sang contaminé et de tous les scandales de médicaments comme la dépakine ou que
le Mediator. On en parle beaucoup en ce moment des scandales du médicament.
Voilà, il y a un procès qui est en cours.
Absolument.
D'ailleurs. On pourrait parler du nuage de Tchernobyl qui s'est arrêté sur nos frontières.
Ah, il avait pas de visa, hein. C'était à l'époque de Charles Pasqua.
Et pourtant, on était en Europe, donc elle pouvait circuler librement. Eh bien, il y a eu des catastrophes sanitaires parce qu'on ne voulait pas affoler la population. Donc, on n'a pas distribué de comprimés d'iode qui permettaient de contrecarrer les catastrophes de ce nuage. Et comme ce nuage est passé sur des montagnes où il y avait de la pluie et de la neige, il y a eu 1000 fois le seuil de toxicité qui s'est introduit dans le sol et qui ont fait l'objet de consommation, puisqu'on n'a pas interdit ni le lait ni les produits de la culture à nos enfants. Il y a eu une multiplication de cancer du sang, et du cancer de la thyroïde. Alors, je voudrais revenir à ce que vous parlez sur cet accident de Rouen. Il est évident que quand j'ai entendu cet accident majeur, et je me souviens d'AZS, la première chose à faire quand ce genre d'accident, il est très curieux qu'aucun membre du gouvernement n'ait fait déclaration pour faire le nécessaire, c'est-à-dire le cantonnement, on reste chez soi, on attend de savoir ce qui se passe. Si on est obligé de sortir, on met un masque. Et surtout, on essaye, comme on avait des vents dominants qui venaient du sud-ouest, on essaye de se déplacer, si on le peut, vers les zones qui ne sont pas contaminées par ce nuage qui faisait 250 km de long.
Oui.
Voilà ce que je voulais dire en premier commentaire.
Alors justement, Bernard Cron, on va faire réagir rapidement Michel Dubromel et Jean-Yves Lebert. On nous refait le coup du nuage de Tchernobyl qui n'avait pas de visa ?
Ah ben c'est... Pardon.
Michel Dubromel.
Je passe la parole à Jean-Yves Lebert. Oui, franchement, c'est horrible de nous refaire le coup du nuage qui n'a pas de visa. Toute la population voyait des taches noires dans les flaques d'eau, sur les feuillages, et le ministre de l'Intérieur, croyant rassurer la population, dit « circulez brave gens, il n'y a pas de problème ». Mais c'est complètement surréaliste. Il aurait pu dire, comme le Premier ministre vient de le dire, « nous ne savons pas tout », c'était beaucoup plus honnête. Donc il y a vraiment une erreur massale de responsabilité. En plus, pour avoir été, je peux le dire, responsable d'une cellule de crise, aussi bien le fabricant que le préfet est responsable de donner des consignes à la population. Il a tout pouvoir pour cela. Donc c'est vraiment absolument ahurissant.
Jean-Yves Lebert, on nous refait le coup de Tchernobyl, comme le disait Bernard Cron ?
Moi, je partage pas cette opinion. Je pense que on sait surtout pas comment traiter correctement les problèmes de population, de pollution de l'air dans ce pays. On va savoir gérer correctement les crises qui vont être des crises liées à l'explosion, à l'incendie, ce qu'on aura retiré d'ailleurs en partie de l'expérience d'AZF qui aura rappelé l'existence du risque explosif en ville. Je pense que surtout, on ne fait pas l'effort dans ce pays de traiter correctement le problème de la diffusion de l'air et qu'on est toujours aussi faible sur ce plan-là. C'est pas spécialement la France, hein, c'est général. Les gouvernements ne savent pas globalement comment traiter proprement et correctement le problème de la pollution aérienne et de la pollution de l'eau. Ce sont des pollutions diffuses. On va savoir répondre et dont les conséquences s'étalent dans le temps. On sait traiter correctement un incendie. Les plans de prévention de risque dont parlait Libreville tout à l'heure, délimitent correctement ces risques-là. Mais tout ce qui va être diffusion du risque et risque à longue portée, on ne va pas savoir traiter correctement. Et y a, de ce point de vue-là, un manque. On n'a pas développé de compétences correctement en la matière. Et les pouvoirs publics, aujourd'hui, n'ont juste pas de réponse. Ils ne peuvent pas faire le coup de Tchernobyl parce que la population réagit très, très bien. Donc, est correctement informée, réagit convenablement à ce qui, voilà, est en demande d'information. Mais on n'a pas élaboré, depuis Tchernobyl, les bonnes réponses sur la question de la diffusion de la pollution par voie aérienne et par l'eau. Les réponses.
Ça, justement, on va parler de l'eau tout à l'heure et de la voie aérienne et de la pollution, Jean-Yves Le Ber. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 19h15. Faut-il déménager les usines Seveso hors des villes? On était à 72%. On est redescendu à 71%. On est passé à 72%. Ça réagit au 0826-300-300. On ira d'ailleurs dans quelques instants. Restez bien avec nous sur Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio. Philippe David.
Retour des vraies voix jusqu'à 20h sur Sud Radio. Faut-il déménager les usines Seveso hors des villes? Vous êtes 72% toujours à dire oui. Avec nous pour en débattre, Michel Dubromel, président de France Nature Environnement, Bernard Cron, chirurgien, vice-président de l'internat de la PHP, l'assistance publique, les hôpitaux de Paris, et Jean-Yves Le Ber, membre de la commission d'orientation de la recherche et de l'expertise de l'Institut National de l'Environnement et des risques, l'INERIS. Ça réagit au 0826-300-300. Nous allons retrouver Lionel à Pontoise, dans le Val d'Oise. Lionel, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Bienvenue sur Sud Radio.
Merci. Oui, donc j'appelais par rapport à cette problématique de vouloir déménager les entreprises. Il faut savoir que les usines, la plupart de ces usines, ont été d'abord construites en extérieur, ce sont les habitations qui se sont faites autour.
Absolument, je vous coupe, je peux parler en tant que Toulousain. AZF, au départ, pendant la guerre de 14, c'était une usine de munitions et on a amené la ville autour, elle était complètement à l'extérieur de la ville, c'est vrai.
Exactement, il y a aussi le cas de la centrale Total qui est à Rastatt, par exemple.
En Alsace.
En Alsace, tout à fait. Qui ont utilisé une source d'eau, puisque là-bas c'était des marécages. Hein, ils se sont installés là pour utiliser l'eau pour refroidir les cheminées. Et les maisons se sont construites autour. Bien souvent, en plus de ça, c'était des gens qui travaillaient dans cette usine, qui connaissaient les risques et qui ont construit les maisons. Le problème est sur le fait d'autoriser ces gens à monter des maisons sur des zones que l'on connaît à risque et par la suite qui risquent d'être vendues à n'importe qui ne connaissent pas la problématique de l'entreprise.
Donc pour vous, le problème, on vient revenir toujours au problème des pouvoirs publics qui ont donné des permis de construire à des particuliers autour de ce type d'usine, alors qu'ils n'auraient pas dû venir.
Ah, exactement, c'est tout à fait ça.
Après, c'est ce que disent, je vous redonne la parole, c'est ce que disent beaucoup de commentaires. On a Joseph qui nous dit, je vous redonne la parole Lionel, hein. Souvent les usines étaient sur place avant les nouvelles constructions et habitations. Ça c'est un autre commentaire, on a beaucoup de commentaires dans ce style, hein.
Oui, bah tout à fait, hein. C'est ce qu'on retrouve souvent et pour avoir navigué sur des un peu partout en France et en pétrolier, en matière dangereuse, la plupart des usines ont été fabriquées en extérieur. Ce sont les habitations qui sont venues. Donc la question maintenant, elle est pourquoi autoriser ce genre de construction autour des entreprises que l'on sait à haut risque?
Oui, j'ai retrouvé d'autres commentaires. Dark Vador, oui, mais alors il faut interdire les constructions autour. Xavier, pour certaines, elles étaient là avant, donc une responsabilité des pouvoirs publics. Et Alain qui nous dit arrêter les permis de construire à proximité. On va faire réagir nos invités, Lionel. Michel Dubromel, président de France Nature Environnement. Quand vous entendez Lionel, on a beaucoup de commentaires. Tout le monde dit, mais qu'est-ce que les pouvoirs publics ont fait alors que ces usines, elles étaient faites en dehors des villes, d'aller donner des permis de construire à côté?
Alors, l'urbanisation, c'est un gros problème. Je comprends.
Mais on peut
bien
faire de l'urbanisation intelligente, Michel Dubromel.
Oui, mais Philippe, je comprends très bien naturellement une personne qui demande à habiter à proximité de son entreprise.
C'est vrai.
La demande est logique. Il y a un manque de courage des pouvoirs publics de dire non, nous te refusons parce que ta santé est en jeu, nous te recommandons d'aller ailleurs. Mais très souvent, le maire pourrait être élu, et c'est pas la faute du maire. Mais c'est l'habitude de dire, bah, pour ne pas fâcher quelqu'un, on n'autorise un permis de construire. Et donc, partout, Toulouse, Restet, vous avez la vallée de Pont-de-Claix en Isère, c'est pareil. Donc, tous ces endroits-là, les usines existaient et les maires ont laissé faire l'urbanisation. C'était prévu après ZF. Il y a vraiment eu un travail important dans les plans de prévention des risques technologiques. Nous avons senti l'État qui n'avait pas le courage d'imposer ces principes de non-urbanisation. Je peux citer certaines reprises. J'ai été dans ce cas-là, qui rachetait les maisons, qui dédommageait les gens en leur disant « Il est préférable qu'on rachète votre maison et que vous puissiez habiter ailleurs. » Donc, il y a quand même, des deux côtés, aussi bien les pouvoirs publics de faire respecter les règlements, ils existent dans les PPRT, et l'entreprise d'être responsable vis-à-vis de ses voisinages.
Justement, Bernard Cron, et après on donnera la parole à Jean-Yves Lebert. Comme oui. Le disait Michel Dubromel, c'est très juste, on aime bien travailler plutôt à 5 minutes de son travail qu'à une demi-heure. C'est humain, en plus ça coûte moins cher et ça permet de se lever plus tard et de rentrer plus tôt. Question, c'est quand même assez paradoxal de vouloir habiter à côté d'usines qui envoient parfois des fumées pas très ragoûtantes, jaunes, noires, etc. Et est-ce que c'est responsable de la part des pouvoirs publics d'avoir donné des permis de construire à côté d'usines qui avaient des rejets, bah souvent qui n'étaient pas très bons pour la santé, à défaut d'être carrément toxiques ?
Mais Philippe, je crois que c'est un problème très général. On a la même chose avec les zones inondables et les drames qu'il y a eu au niveau de des dernières sinistroses avec les grandes inondations qu'il y a eu à La Faulte-sur-Mer. Il y a la même chose avec d'autres endroits qui sont dangereux. L'urbanisation grandit. Les petits villages arrivent à proximité des vignes et les épandages de pesticides sont également toxiques. C'est un problème tout à fait général. Alors, déménager ces usines, c'est impossible. Les permis de construire ont été donnés. Il faut donc voir ce qui a été fait. Et on ne peut pas le changer. Par contre, il est évident que dans cet environnement, des consignes de sécurité très claires devraient être données à la population. Et comme la population de Rouen ne sait pas trop ce qu'il faut faire, il est évident qu'il ne faut pas toucher les suites qui sont toxiques et qui peuvent être cancérigènes. Il est évident qu'il faut garder un masque quand on circule dans ces régions pour ne pas avaler ou aspirer des particules fines qui peuvent être cancérigènes. Et puis, il faut savoir que l'eau, la nappe phréatique et les cultures du secteur risquent d'être contaminées et qu'il y a des mesures de protection. Il ne faudrait pas faire comme avec le nuage de Tchernobyl, d'autoriser la vente des produits végétaux et de la culture qui risquent d'être extrêmement toxiques pour la population. Et je voudrais revenir pour terminer sur ce point-là, sur les risques différents que représentent ces grandes intoxications par des nuages toxiques. Il y a un risque aigu qui n'est pas très important. Il y a rarement des morts par cette intoxication, en dehors des risques des pompiers. Mais même les pompiers n'avaient pas de masques spéciaux pour pouvoir intervenir. Il est évident que dans l'environnement de ces usines, il faut que la sécurité soit assurée, que les inspections soient plus fréquentes. Or, il faut savoir que l'État a multiplié les agences pour donner des consignes, c'est la même chose en santé, mais le nombre d'inspecteurs disponibles ne sont plus suffisants, oui. De même qu'on manque de médecins ou qu'on manque de spécialistes.
On vient de couper l'antenne.
Il y a de plus en plus d'administratifs. Il faut donc revoir les plans de secours.
Ce qui est hallucinant, Jean-Yves Lebert, qu'est-ce que vous voulez répondre à Lionel de Pontoise ?
Je suis assez empoisonné par cette question concernant la... Faut-il envoyer les usines loin des villes ou etc. D'abord, bon, je suis membre de la commission d'orientation de la recherche et d'expertise de l'INERIS en tant qu'administrateur d'ONG Écolo pour Écologie sans frontières, qui est une ONG experte dans la qualité de l'air historiquement. Et cette question est très est un peu hors de l'histoire et un peu hors du temps, parce que on se pose là, on est sur un sujet de pollution qui est très distante. Notre ami Cron parlait de distance de plus de 200 km d'épandage sur plus de 200 km. Alors on a une exposition qui est immédiate, qui est forte pour tous les gens qui sont directement en périphérie et sur lesquels les précautions auront peut-être pas été prises. Les plans de prévention des risques technologiques sont bien faits. Ce qui est peut-être moins bien fait, c'est tout ce qui est dispositif d'urgence autour de ces plans. Les villes, et là pour le coup, c'est pas l'État, ce sont des responsabilités locales. Moi, je trouve que dans l'histoire, on n'a pas beaucoup entendu RATMO, en tout cas RATMO, RATMO, c'est l'organisme régional en charge de la surveillance de la qualité de l'air, qui est le principal problème dans le cas présent. On les a pas beaucoup parce que de toute façon, ils sont pas équipés de ce qui permet de mesurer ce type de prélever dans l'air tout ce qui permet d'analyser les conséquences de ce type de sinistre. Donc on a déjà, moi je dirais la responsabilité de l'État est importante, mais quelque part au niveau de la région, non plus on ne prend pas acte du type de péril sur lequel on se trouve.
Alors justement,
il y a un sujet là-dessus qui est important, c'est on construit, les usines sont des lieux d'emploi et ce sont des lieux de prospérité puisque les collectivités sont riches, elles perçoivent beaucoup de fiscalité.
À l'époque, la taxe professionnelle, maintenant la CFE, la contribution forfaitaire des entreprises. On doit faire une pause, Jean-Yves Lébert. Vous êtes bien sur Sud Radio, 19h28. On était à 72 et maintenant vous êtes 73% à penser qu'il faut déménager les usines Seveso hors des villes. Vous voulez réagir comme Lionel de Pontoise, vous connaissez le numéro, le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio. Philippe David.
Retour des vraies voix sur Sud Radio. Faut-il déménager les usines Seveso hors des villes ? Vous êtes nombreux à réagir. On va retourner au 0826 300 300 et vous êtes toujours 73% à dire que non. Et beaucoup de commentaires, c'est assez intéressant parce qu'on parle souvent de la séparation entre la France périphérique et la France des campagnes. Et on a beaucoup de commentaires. Tiens, je vais vous en lire quelques-uns. Joss 83, pour les mettre où ? Dans les campagnes, forêts, montagnes, TL May qui nous dit pourquoi venir polluer nos campagnes ? Les écolos sont tous dans les villes. Léopold 2 qui nous dit les bénéfices pour les villes, les merdes pour les ploucs, la périphérie devient le tiers-monde. On a également un autre commentaire qui est tombé il y a quelques secondes. Souiller nos campagnes, hors de question. C'est quand même assez important, intéressant, parce que tout le monde dit on veut des emplois, mais quand on dit on va les amener dans les campagnes, bah tout le monde n'est pas d'accord. Direction Groyais, dans le département du Tarn. Bonsoir Sylvie.
Oui, bonsoir.
Bienvenue sur Sud Radio, nous vous écoutons.
Voilà. Mais il y a 24 ans, on a placé des usines donc, qui étaient classées dans une zone classée. Donc jusque-là, ça allait dans
le bon sens. Usine classée, Seveso, c'est ça ?
Alors, on a classé, puis Seveso et Seveso 2.
D'accord. Hein,
voilà dans quelle dimension on est dans la dangerosité par rapport aux pompiers, par rapport à ce que doit faire un préfet, etc. Et tout ça, c'est que sur du papier. Parce qu'après, directement sur le terrain, eh bien, il n'y a plus personne. Et nous, on a vécu ça au plus profond de nous-mêmes, puisque on nous a placé ces deux usines dans une zone classée, mais classée qui était uniquement pour des mégissiers. Et les mégissiers ne polluent que la partie de l'eau, donc il faut qu'elle soit reliée à une station d'épuration. Mais ces deux usines-là, c'est polluer la qualité
Sylvie,
de l'air.
Sylvie, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est que les mégissiers ? Parce que tout le monde ne le sait pas.
Les mégissiers, c'est traiter du cuir pour faire des chaussures ou des vêtements.
D'accord. Et là, c'est très polluant, voilà. Mais pour les eaux.
Pour les eaux. Donc, s'il y a très peu, il y a du chrome dans l'usine et c'est dangereux pour les personnes qui y travaillent, mais c'est très peu dangereux pour l'extérieur. Voilà. Et donc, c'est des usines qui flambent rapidement, donc il faut que, quand il y a un incendie, qu'on puisse les maîtriser. Et donc, on les avait mis dans une zone classée, alors qu'au départ, elles étaient au centre des villes. Donc ça, c'était logique et c'était normal. Là-dessus, on déclasse, mais non officiellement, cette entreprise, cette zone, parce que ces bégisseries ne sont plus, je vais dire, aptes à travailler en France, puisque entre-temps, il y a eu l'Europe qui est assainie. Et donc, on va déclasser non officiellement et on va mettre des artisans et des commerçants dans cette zone. Et quelques temps plus tard, donc il y a 25 ans exactement, on va y placer deux usines dites d'engrais organiques, mais je ne vous explique pas comment sont faits ces engrais, ce n'est pas le sujet. Et donc ces deux usines ont brûlé chacune à leur tour.
Ah oui.
On a pu maîtriser rapidement, mais la seule chose c'est que c'est une pollution de l'air. Et on ne regarde absolument pas, parce qu'on n'est absolument pas là-dedans en France aujourd'hui, de cette fameuse rose des vents. Et la rose des vents est primordiale. Vous pouvez mettre une usine juste à quelques centaines de mètres d'habitation et que ça ne pose pas certains problèmes. Et vous pouvez mettre une usine qui est à 20 km et pourtant la Rose des Vents, elle arrivera directement dans la ville qui est juste dessous. Donc il faut vraiment sentir qu'on ne fait pas ça par hasard. Et vous voyez, il y a 25 ans en arrière, on n'avait pas fait d'études. C'est nous qui les avons fait en tant qu'association. On n'a pas parce qu'on a été malade à la suite, donc c'est tout ça, voilà. Et puis les préfets ne sont pas du tout à même de pouvoir comprendre quoi que ce soit à ce niveau-là. J'en ai usé 6, alors je peux vous assurer que voilà. Et il y en a un qui a été déplacé parce qu'à un moment donné, il comprenait que ce qu'on visait, et donc il a commencé à aller dans notre sens. Et
Sylvie, voilà. Restez avec nous, vous allez pouvoir échanger avec nos invités. Jean-Yves Lebert, je vous ai fait raccourcir un peu parce qu'on avait la pub. Vous avez entendu Sylvie de Grouillet, qu'est-ce que vous voulez lui répondre ?
Absolument. C'est un excellent témoignage, parce que en fait, ça pose le problème de la distance de la distance possible, potentielle de l'impact de la pollution. Je corrigerai Sylvie juste sur un sujet. J'ai vécu pendant quelques années dans le Médoc, et le Médoc a eu son économie complètement détruite, qui était une économie ostréicole en grande partie, complètement détruite par l'incendie et la fuite de chrome d'une mégisserie en Dordogne à 200 km de là. Et donc on pose bien et l'eau véhicule de la même manière que l'air les substances polluantes extrêmement loin. Et donc la question de cette question de l'implantation et du choix du site d'implantation d'industrie, alors il y a l'océan de prospérité que crée la bulle de prospérité que crée la fiscalité d'une usine qui incite à s'installer dans les communes et dans les sites et sur des terrains proches de l'usine. Une commune qui est riche parce qu'elle reçoit beaucoup de fiscalité ou une intercommunalité, c'est une intercommunalité attrayante. Et elle est doublement attrayante parce que elle est proche du. Quand on y vit, on est proche de l'employeur principal. Donc, il est difficile de ne pas, enfin, d'éviter que les citoyens s'emparent de cette opportunité et que les collectivités à proximité de ces sources de richesse ne s'en emparent. La question, c'est quelle est la nature du risque auquel on est exposé. Exactement. Il y a un certain nombre de collectivités, un certain nombre d'activités sur lesquelles il y a un risque immédiat qui est brutal, avec peu d'impact à l'extérieur et loin, qui vont être des activités avec des choses très explosives et relativement peu de diffusion de substances, et d'autres activités qui vont avoir à la fois un risque de dispersion de substances polluantes par l'air ou par l'eau importante, ce qui est le cas de Lubrizol par exemple, mais ce qui était le cas de cette mégisserie qui a pollué le Médoc il y a une trentaine d'années, une bonne vingtaine d'années maintenant. Et donc, ça. Et puis, il y a un deuxième risque qui est complètement ignoré dans l'histoire et dans le débat, qui est le risque chronique. Et quand on analyse les conséquences de l'activité industrielle sur les populations de la vallée du Rhône, ou la population de Fos-Marseille, ou la population de l'ensemble, et même de l'ensemble de la vallée de la Seine, parce que la vallée de la Seine, dans son ensemble, est une vallée, et jusqu'à Caen et Rouville, est une vallée qui est fortement concentrée, une forte concentration en pétrochimie. Moi, j'ai vécu à Rouen pendant quelques années, une grosse partie de ma famille est à Rouen. On y respire mal, souvent. Et c'est une pollution qui est chronique. Et tous les jours, c'est un petit Lubrizol. Tous les jours. Et il y a là-dedans, parce qu'on n'en meurt pas tout de suite, parce qu'on n'explose pas comme chez AZF, on n'en meurt pas tout de suite. Et ce risque-là, il est diffus, il est sournois, il n'est pas correctement appréhendé.
Il n'est pas mesuré du tout par
l'autorité. Il est mal mesuré, mal pris en compte. Et ça correspond, en fait... Tu vois, on a un souci dans ce pays, mais c'est pas que la France qui est un problème d'impact de la population sur les populations. Autant on va être relativement sûr de soi sur tout ce qui va être valeur toxicologique de référence ou dose journalière admissible qui, en gros, si vous en absorbez, vous tombez. Hein, c'est un peu le principe. Oui. Et puis, sur la pollution chronique, avec les effets cocktails dans la pollution chronique, c'est-à-dire si j'ai une usine qui fabrique un truc toxique d'un côté, moyennement toxique, ça va aller, un autre truc moyennement toxique, une autre usine moyennement toxique un petit peu plus loin, ça va aller. Si on mélange les deux, on est beaucoup plus malade et là ça devient très dangereux.
Très dangereux.
Et là, on n'est pas dans la question des doses journalières admissibles et des valeurs toxicologiques de référence, parce que la combinaison des substances potentialise.
Alors
Oui, potentialise le risque. Et puis, il y a là-dedans la notion d'exposome, qui est la répétition de l'exposition, même à des doses faibles. Et on s'aperçoit qu'on a des populations dont la santé est relativement affectée, voire parfois effondrée dans certaines zones, au fil du temps, pas simplement sur une pollution accidentelle, ponctuelle, comme c'est le cas.
Justement, Jean-Yves Lebert, vous qui êtes normand, on va faire réagir Bernard Cron et après Michel Dubromel. Bernard Cron, vous qui êtes médecin, vous entendez ce qu'a dit Sylvie de Groyer, vous avez entendu ce qu'a dit Jean-Yves Lebert. Jean-Yves Lebert, il dit finalement, avec ce qu'il y a dans l'air, on a finalement un petit Lubrizol chaque jour en respirant. Sylvie qui nous dit on avait une mygisserie, ça rejetait du chrome dans les eaux. Et puis l'eau, ben, on s'en sert pour laver sa salade, faire cuire ses pâtes, etc. C'est quand même assez terrifiant. On s'intoxique comme ça, vous qui êtes médecin, avec le temps ?
Tout à fait. Il y a un exemple dans les Antilles françaises avec le
chlordécone.
C'était un produit chimique dans les bananeraies. C'était toxique. On a continué de l'utiliser. Maintenant, les sols sont complètement intoxiqués et les eaux de ruissellement vont intoxiquer la faune marine de proximité des côtes. Et donc, la consommation des cultures maraîchères et des poissons de proximité des côtes sont devenus dangereux. Et le nombre de cancers de prostate a explosé dans les Antilles à cause de ce produit chimique chronique. Le problème du produit chimique chronique est le problème majeur de la pollution. Les scientifiques ont calculé que le nombre de cancers, si on arrêtait de fumer, s'il n'y avait pas la pollution chimique chronique, pourrait être diminué de 25 à 30%.
Ah oui, c'est énorme.
Il faut savoir cette année que l'espérance de vie en France, alors que la progrès de la médecine sont absolument fantastiques et ne vont faire qu'exploser, eh bien l'espérance de vie en France a baissé d'un trimestre cette année.
Rapport au cancer. Ah oui, c'est hallucinant. Michel Dubromel, président de France Nature Environnement, qu'est-ce que vous voulez répondre à Sylvie de Groyer qui dit des choses extrêmement intéressantes ?
Le point important par lequel on a commencé l'émission, c'est sur le court terme. Tout le monde réagit quand il y a une explosion, et c'est normal, c'est humain. Le travail de long terme, et je rejoins Jean-Yves Lebert, la notion de répétition dans la durée, c'est un terme un peu technique, l'exposome, mais c'est ça le point important, parce que c'est là qu'il y a le plus de maladies, mais ça demande beaucoup de moyens et beaucoup d'études, évidemment, qui ne sont pas financés actuellement. Donc, je reviens encore sur un point important. Actuellement, dans le projet de loi de finances, le gouvernement réduit le nombre d'inspecteurs. Et pour moi, c'est important parce que les inspecteurs, ils ne sont pas là pour sanctionner. Ils sont là pour accompagner toutes les démarches de contrôle, de suivi des entreprises. Donc, il est absolument aberrant qu'un gouvernement dise « Oui, on va s'occuper de votre santé » à long terme, et en même temps, je précise le terme, en même temps, le même jour, en projet de loi de finances, il annonce des suppressions d'inspecteurs à l'installation café par milliers. Donc il y a vraiment quand même une incohérence à ce niveau-là.
Heureusement que Bernard Cros est chirurgien, il aurait été psychiatre, on aurait parlé avec lui de schizophrénie.
Je vous laisse ce mot-là.
Justement, Sylvie de Groyer, vous voulez ajouter quelque chose, rapidement ?
Oui, je veux ajouter quelque chose, c'est que Quand on devient victime, malgré nous, d'une situation pareille, on va se heurter à des autorités qui ne comprennent rien déjà au démarrage et qui ont des réglementations et qui ne veulent pas aller au
plus loin. Excusez-moi, c'est gênant quand les autorités ne comprennent rien, parce que autorité, théoriquement, ça doit comprendre.
Ben justement, ça ne comprend rien là, et ça fait déjà quelques années malheureusement, puisque vous voyez, on recommence les mêmes bêtises 25 ans après. Et donc aujourd'hui, quand il y a des associations qui se montent, au départ on n'y connaissait rien. Aujourd'hui, je peux vous dire que je suis imbattable sur la rose des vents, je suis imbattable sur certains produits chimiques, je suis imbattable sur plein d'autres points. Au lieu de prendre ces personnes, de dire écoutez, puisque on n'a pas les moyens financiers, et vous voyez, et je pense que les moyens on les a, mais on ne veut pas les mettre, on n'a pas vraiment les moyens de traiter ceci ou cela, on vous écoute, qu'est-ce que vous avez réellement à nous dire, parce que je faisais partie de ces personnes qui étaient des personnes non violentes, des personnes qui pouvaient être à l'écoute et pouvoir aller discuter, aller poser les choses clairement. Or, on m'a mis, mon nom est en lettres rouges au niveau du gouvernement, parce que je suis une personne dangereuse, vous imaginez.
Alors écoutez, ça me rappelle une chose. Que comme voilà, chantait Guy Béard, le premier ou la première qui dit la vérité, il ou elle doit être exécuté, c'est ça ?
Oui, oui, exactement. Mais ceci dit, voilà, on ne veut pas avancer dans ce pays.
Alors justement.
Alors je ne sais pas dans les autres pays, mais ici on ne veut pas avancer, ça c'est sûr et certain. Alors quand on me dit, moi, liberté, égalité, fraternité, moi j'ai envie de hurler là. Et là je sors de mes gonds, vous voyez. Parce que ça, eh ben, ce qui se passe à Rouen aujourd'hui, eh ben, moi j'ai éclaté dans une colère en me disant, ben voilà, 25 ans après, on est toujours au même stade. La seule chose c'est que là c'est différent parce que les gens sont dans la rue. C'est ça qui a évolué réellement. Et qu'à force...
Et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'informations, alors parfois fausses, qui circulent via les réseaux sociaux, l'eau noire du robinet, dans le lavabo, etc.
Oui, peut-être. Mais après, il faut faire le tri globalement. Et si vous avez une quinzaine de personnes qui vous répètent la même chose, il faut quand même en prendre conscience, se dire, mais qu'est-ce qui se passe réellement ? Alors après, les peurs, je suis d'accord avec les autorités quand elles disent, on ne veut pas faire peur, parce que si on annonce quelque chose à la cantonade comme ça, c'est sûr que ça fait peur. Mais il faut gérer justement ce qu'il y a à faire. Mais la seule chose, c'est que les autorités ne savent même pas elles-mêmes. Elles ne savent pas, alors qu'on devrait se mettre autour d'une table
et
pouvoir réellement discuter de comment on peut agir.
Merci.
Dans quelles circonstances.
Eh ben, merci voilà. Beaucoup Sylvie de Groyer pour votre témoignage passionnant. On va continuer à en parler, mais dans quelques instants. Vous étiez passé à 73% qui disaient que oui, il fallait déménager l'usine Seveso hors des villes, et bien ça a redescendu. Vous êtes maintenant 72%. Ça fait l'aller-retour entre 71, 72, 73. Vous voulez faire comme Sylvie de Groyer et Lionel de Pontoise, vous connaissez le numéro, le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio. Philippe David.
Faut-il déménager les usines Seveso hors des villes ? Oui, parce que Rouen, c'était en ville comme AZF à Toulouse. On en débat ce soir avec Jean-Yves Lebert, membre du conseil de la commission d'orientation de la recherche et de l'expertise de l'Institut national de l'environnement et des risques, Bernard Cron, chirurgien, vice-président de l'internat de la PHP, et Michel Dubromel, président de France Nature Environnement. Michel Dubromel, je vous fais réagir, on a pas mal de questions, beaucoup d'appels, mais on ne peut plus prendre d'auditeurs. On a Paysan 47, qui est un très fidèle auditeur, qu'on salue, qui dit « Quand un nuage toxique parcourt des centaines de kilomètres, les risques sont plus élevés dans la zone proche, mais peut-on faire des zones de sécurité de plusieurs centaines de kilomètres, Michel Dubromel ?
Alors, justement, la question est malheureusement dans la réponse, faire une zone de sécurité de 250 kilomètres, parce que vous avez la carte, c'est quasiment impossible. Il y a là aussi une évaluation des risques. Je n'insiste pas à nouveau sur les informations des populations, mais il y a quand même un travail des usines à risque. Les distances, je reviens sur les commentaires de la Rose des Vents, on sait très bien où un panache de fumée va arriver. Donc là aussi, il y a, et Jean-Yves Audin a dit tout à l'heure, un problème d'apprentissage, de connaissance du risque qui n'existe pas en France, et notamment les risques aussi bien la rivière polychrome que l'atmosphère. Donc là aussi, je pense qu'il y a un gros travail collectif, non pas de pousser les usines plus loin, puisque c'est à 200 km, mais un gros travail d'information. Pourquoi à 3 à 4 heures du matin, les personnes n'étaient pas informées ? Il y a des dispositifs qui existent dans d'autres pays où il y a des listes téléphoniques qui se déclenchent automatiquement. On nous a expliqué qu'on ne veut pas affoler les populations à 3 heures du matin. Entre affoler les gens et protéger leur santé, donc il me semble qu'il y a des dispositions. On a quand même des chaînes très automatisées, très sophistiquées au niveau téléphone. On prend la rose des vents, et moi j'ai bien aimé le commentaire, on peut prévenir toute la région que les gens, au moins, parce que mettre un masque et des gants, pour les premières 48 heures, ça évite une pollution. Donc là aussi, il y a un manque d'informations, ça ne résout pas tout, mais au moins, dans les premières 48 heures, je ne parle pas du long terme, au moins on protège les gens.
Bernard Cron, vous êtes chirurgien, vice-président de l'internat de la PHP. Beaucoup de questions, on parle déjà, alors que l'incendie n'a même pas une semaine, de cancer Lubrizol. C'est terrifiant pour les années à venir.
Oui, tout à fait.
Également, je voulais vous poser une deuxième question. Oui. Bah, allez-y, répondez sur les cancers et je vous poserai une deuxième question.
Oui, tout à fait. On ne sait pas trop ce qu'il y a dans ces produits, mais beaucoup de ces produits sont cancérigènes et les suies peuvent être cancérigènes. Il peut y avoir également d'autres produits, puisqu'il y a des peintures au plomb. Le plomb est toxique. Regardez, avec Notre-Dame, il a fallu désintoxiquer les écoles avant d'autoriser à y retourner. Il peut y avoir également de l'amiante, qui sont des particules qui peuvent donner des cancers de la plèvre. Il est évident qu'il faudra savoir exactement ce qu'il y avait comme produit, si tant est qu'il y ait un inventaire complet des 5000 et quelques tonnes qu'il y avait sur ce site.
5253 tonnes qui ont brûlé.
Qu'il pourrait y avoir. Et d'autre part, il est évident que dans de telles situations, il faudrait avoir un plan de gestion du risque transparent. Nous, médecins et chirurgiens, on est tenus par la loi santé de 2002 d'avoir une information éclairée et transparente de tout risque que peut subir un malade quand on le perd, même le risque rare. Or, l'État ne le fait pas pour les zones à risque que sont les zones AZS.
Et Bernard Cron, justement, deuxième question, et après je poserai une autre question à Jean-Yves Lebert. Est-ce qu'avec les suies qu'il y a eu, c'était absolument impressionnant, ces images, est-ce que ça peut être encore plus désastreux pour les jeunes enfants et les insuffisants respiratoires, par exemple ?
Tout à fait. Les jeunes enfants, les gens qui sont immunodéprimés par certaines maladies ou les gens âgés sont beaucoup plus exposés. Et il est évident que le préfet aurait dû, dès que l'incendie avait été déclaré, faire une annonce sur les zones, que les gens restent cantonnés chez eux. S'ils devaient sortir, de mettre un masque, mais un vrai masque, pas le petit masque chirurgical qui n'a aucune
effet. Que vous avez au bloc.
Un vrai masque. Et dans ces zones de type Céveso, il est évident qu'il faudrait qu'il y ait dans les pharmacies des stocks de masques pour pouvoir protéger la population.
Alors justement, Jean-Yves Lebert, vous avez entendu Sylvie qui dise « les pouvoirs publics sont à côté de la plaque », vous avez entendu Bernard Cron qui dit « il faudrait avoir des masques », vous avez entendu Michel Dubromel qui dit « ben, il fallait donner des alertes, mais on ne veut pas paniquer les gens ». Excusez-moi, on est un soir de Ligue des Champions, il y a un but, vous recevez une alerte info dans les 30 secondes qui suivent sur votre téléphone, on ne pourrait pas prévenir la population par des alertes info, etc. Ce ne serait pas faisable au titre du principe de précaution qui est dans la Constitution.
Alors moi, ça me semble être effectivement. Il y a la question du périmètre immédiat et la question du périmètre élargi. Donc dans un périmètre immédiat, les populations qui vont être directement sur le panache ou là où il va être le plus dense, ça pourrait être tout à fait envisagé. Pourquoi pas. L'industrie nucléaire le fait aujourd'hui avec les pastilles d'iode quand elle envisage des problèmes de distribution
de
pastilles d'iode, quand on envisage des problèmes d'accidents sur ces générateurs. Donc pourquoi pas. De toute façon, la population a besoin d'être informée, surtout à l'époque des réseaux sociaux où il y a énormément de fausses informations qui circulent ou de mauvaises informations. Il faudrait pouvoir tout de suite communiquer déjà ce qui est connu et correctement identifié. Ces dispositifs-là n'existent pas pour le moment sur le risque chimique et notamment sur le risque chimique, sur les risques aériens. Maintenant, c'est comment on définit ce périmètre. Il y a un investissement probablement à faire dans la délimitation des périmètres exposés à ce type de pollution, la pollution de l'air en particulier. J'écoutais le témoignage de Paysan 47, là,
oui.
C'est intéressant, puisqu'on se trouve avec le même problème avec l'agriculture, avec la distance par rapport aux zones d'épandage.
C'est vrai.
À combien de distance on doit avertir la population, on doit prévenir la population qu'il va y avoir un épandage, faut-il l'interdire ou pas, mais au moins faut-il avertir, et à quelle distance ? Qu'est-ce qu'on considère comme le périmètre de nuisance de la pollution ? Et ça, c'est extrêmement difficile à faire tant qu'on est dans le domaine aérien, puisque avec la rose des vents et avec les orientations, est-ce qu'il faut dire statistiquement, je prends une population de 300 000 habitants sur ce qui est statistiquement le plus gros panache ? C'est extrêmement complexe, c'est extrêmement onéreux, mais c'est un investissement qui mériterait peut-être d'être fait. Mais le plus gros investissement et le meilleur investissement à faire, il est dans la prévention. Il est dans la prévention et dans
l'information. On arrive au bout de l'émission. Merci beaucoup Jean-Yves Lebert, membre de la commission d'orientation de la recherche et de l'expertise de l'Institut national de l'environnement et des risques. Bernard Cron, chirurgien, vice-président de l'internat de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Michel Dubromel, président de France Nature Environnement. Vous êtes 72% à penser qu'il faut déménager les usines Céveso hors des villes. Dans quelques instants, le Loft Music. Et notre ami Yvan Cujous reçoit Charles-Élie Couture. Restez bien avec nous sur Sud Radio.